Bonsoir à toutes et tous et bienvenue au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. L'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions écologiques et sociales de Marseille et de ses alentours. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils répondent à l'immensité de ces questions et forment un écosystème, une forêt de projets qui s'enracine, pousse, donne du fruit et vous invite, vous aussi, auditrices et auditeurs, à venir y prendre votre juste place. L'ambition de La Forêt des Possibles avec ses podcasts, son wiki, ses ateliers, c'est de dépasser ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Et qu'est-ce que c'est que ce triangle de l'inaction ? Eh bien, ce sont les citoyens, les entreprises et les acteurs politiques qui se renvoient très souvent la balle pour ne pas être à la hauteur de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique et aux bouleversements environnementaux. Ce soir, 3 décembre 2025, où nous enregistrons cette émission, nous recevons Marin Suzac. Bonsoir Marin.
Bonsoir.
Fondateur de Éclos, avec des produits cosmétiques, et on aura l'occasion de pouvoir présenter en quoi est-ce que ce que vous produisez a une incidence très concrète sur ces trois points du triangle de l'inaction, notamment sur les pratiques citoyennes dans la consommation de produits qui peuvent être bio, vegan, biodégradables, plus responsables, mais aussi pour les entreprises, avec la manière dont une entreprise Bicorp a de revoir son modèle plus régénératif et de travailler avec un écosystème de parties prenantes qui essaye d'avoir un apport vertueux pour l'économie. Et enfin, sur la partie politique, eh bien de venir un peu secouer le cocotier pour changer les pratiques et pouvoir entraîner des bascules de consommation. Je suis Marin Moffret et accompagné ce soir d'Elissa Guyon.
Bonsoir.
Bonsoir Elissa. Et donc, nous sommes ravis de te recevoir, Marin. C'est la première fois que je reçois un Marin à l'émission. Pour celles et ceux qui nous connaissent, eh bien, nous aimons bien remonter le fil de l'engagement du moi au nous et du nous au tout pour partir des engagements individuels et montrer que pour vous aussi qui nous écoutez, eh bien, c'est possible de prendre votre place et de vous engager à votre juste place. Et donc, ma première question pour toi, Marin, avant de présenter Éclos, ça sera de nous présenter un peu ton parcours.
Ah ben avec plaisir, et moi aussi c'est la première fois que je parle avec un autre marin, à Marseille notamment, c'est peut-être le lieu pour les marins. Donc moi je suis marseillais déjà, et même si j'ai vécu longtemps à l'étranger et à Paris ces dernières années, mais je viens de rentrer à Marseille. J'ai un background plutôt scientifique, j'ai fait des mathématiques pendant quelques années à l'Université de la Méditerranée à Lumini, donc j'ai un profil plutôt orienté science, même si pendant mes études, j'ai touché du doigt l'entrepreneuriat assez rapidement, puisque j'ai créé une agence digitale à l'époque, une des premières de Marseille. Et je crée tout simplement des sites internet pour des entreprises ici. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mettre en lien le business et le bien. Pourquoi ? Parce que je crée des sites internet pour... le Conseil général des Bouches-du-Rhône, à l'époque j'avais Urban Peace, un grand concert de rap à l'époque. Il y avait aussi Orange, Wanadoo à l'époque. Et tous les jours, je créais des sites internet. On avait une petite équipe de 5 personnes. Et à côté de ça, j'ai rencontré des associations qui voulaient aussi avoir des sites internet à l'époque ou des campagnes, mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. Moi, j'avais vraiment envie de les aider, les associations, parce que c'était vraiment... à la fois utile, bien pour la société et aussi parfois pour l'environnement. Et donc j'ai commencé avec une association qui s'appelle Aurore de Nausicaa, qui était une association de théâtre et qui jouait dans des zones qui n'avaient pas l'habitude de voir du théâtre habituellement. Et que ce que je faisais en fait, je surfacture un tout petit peu les grands comptes et en fait je créais les sites internet gratuitement pour les associations. Et à ce moment-là, j'ai commencé en fait vraiment à m'intéresser à l'utilité du business pour aussi avoir un impact positif, même si ça ne concernait pas directement l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, entre Marseille et l'étranger, parce que j'étudiais aussi en partie à l'étranger. Et après, je suis monté à Paris, j'ai travaillé pendant quelques années pour des marques agroalimentaires principalement, jusqu'au groupe Bell. Bell, c'est une entreprise familiale, c'est l'un des leaders mondiaux des fromages. C'est Babybel, c'est La Vache qui Rit, c'est toutes ces marques-là que tout le monde connaît, mais c'est avant tout une entreprise familiale qui fait des milliards, mais qui fait très bien les choses. Et j'ai découvert en fait aussi une autre façon de faire du business et avec un impact positif à ce moment-là et une vraie sincérité dans les démarches et l'engagement du groupe, même si c'est un groupe qui fait du business, beaucoup de business. C'est une famille qui était engagée dans des pratiques positives, à la fois pour les éleveurs, pour l'agriculture, mais aussi pour les consommateurs. Et à ce moment-là, moi, j'ai récupéré un poste, celui de directeur de la RSE pour la France. Et j'étais en charge de structurer la RSE pour les marques au niveau de la France et derrière de proposer, on va dire, des nouveaux projets qui aident les marques à être plus utiles au quotidien dans la vie des gens. Et à ce moment-là, j'ai travaillé sur des marques comme Lerdamer, par exemple. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Mais Lerdamer, c'est une marque qui fait beaucoup de volume, qui est moins chère que la MDD en magasin. Donc, c'est un fromage qui est accessible, de qualité, qui est accessible au plus grand nombre. Et surtout, à l'époque, avant que j'arrive, on a un peu listé ce qui est toutes les marges de progrès. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Mais toutes les packaging plastique que l'on achète aujourd'hui dans le supermarché dans Lerdamer, c'était un double couche PET. Bah, c'est passé après un simple couche, on est divisé par deux la consommation de plastique. Un autre exemple, on partait aux Pays-Bas chez nos partenaires agricoles pour essayer de réduire le stress en fait des vaches. Et donc on avait un gros sujet sur le bien-être animal. Tout simplement, hein, une vache qui est moins stressée, c'est une vache qui produit moins de toxines. Moins de toxines, c'est plus de lait. Par vache, c'est aussi un meilleur rapport protéinique sur le lait. Et derrière, du coup, c'est un fromage de meilleure qualité et avec la même vache, on fait plus de fromage. Donc non seulement on fait attention au bien-être animal, mais à côté de ça, en plus, c'est rentable. Et donc, en fait, vous voyez, entre l'agence, où c'était quand même, ça restait du marketing, du digital, et à la fin, des pratiques agricoles dans un grand groupe, on était encore sur un comment faire du business pérenne et bon, mais qui a un impact réel dans la vie des gens. Et ça, c'était le deuxième point. Et après, par exemple, on a créé à ce moment-là des nouveaux produits bio. C'était un peu l'explosion du bio à l'époque. Donc ça, voilà, il y a ça. Et après, j'avais créé une autre marque qui s'appelle le fromage de Margot et qui était la première marque du groupe, en fait, à redistribuer à 100% des revenus à ses agriculteurs. Donc c'était une des premières initiatives dans le groupe. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, j'ai quitté Bell. Et voilà. Et après, j'ai un peu voyagé et je me suis intéressé à d'autres industries qui avaient besoin d'être un peu challengées. Et c'est là que j'ai découvert l'industrie de la cosmétique. Et donc, j'ai cofondé Eclos avec deux autres cofondateurs qui ont eu aussi des impacts assez positifs dans leur carrière. Et aujourd'hui, donc, je fais de la cosmétique.
Et alors, Alors, est-ce que je m'entends ? Oui. On va rester sur ton parcours avant, évidemment, de rentrer sur Eclos. J'aimerais avoir ton regard, ton rapport à la question de la beauté, à la question de la nature. Parce que là, tu nous as parlé de ton parcours. Mais ce qu'on aime bien présenter un peu dans cette partie, c'est qu'est-ce qui t'a aussi un peu travaillé dans les tripes puisque là, finalement, tu arrives à trouver la question de l'impact, la question de la beauté, la question de la nature. Qu'est-ce qui t'y a amené ? C'est une appétence intellectuelle ? C'est un sentiment d'urgence ?
C'est un choc. Je pense que c'est un chiffre choc. C'est à un moment donné, dans les médias, c'était après Bell, un chiffre qui sort, qui place en fait l'industrie de la beauté et des cosmétiques à la troisième place des industries les plus polluantes au monde. Quand on commence à mettre... les éléments polluants directs et indirects, en fait, l'industrie se plaçait, quoi qu'il arrive, dans le top 10 et dans le top 5 si on commençait à prendre de l'indirect, c'est-à-dire je crée un packaging en plastique, j'ai le plastique qui pollue, mais derrière, en fait, j'ai besoin d'avoir du plastique et donc j'ai des industries issues de la pétrochimie qui créent ces plastiques-là. Et quand on commence à cumuler, on s'aperçoit que c'est une industrie très polluante. Au même titre que le prêt-à-porter, que la fast fashion, le pétrole, mais personne n'en parle. Personne n'en parle et derrière, on a très peu d'alternatives. Et à ce moment-là, il y a plusieurs façons de voir les choses. Un, déjà, il y a un challenge. Et finalement, chez Bell, il y avait un vrai challenge. Quand on crée aussi des sites internet, il y avait un vrai challenge pour aider les associations. Moi, les challenges, c'est un truc qui m'anime au quotidien. Et deux, on a aussi un besoin de secouer un peu le cocotier et on a besoin de poils à gratter, des lanceurs d'alerte, etc. Mais on reste quand même dans un pays qui est leader dans les cosmétiques au niveau mondial, qui qui du coup, je pense, ne proposait pas assez d'alternatives à ceux qui voulaient se maquiller de manière saine et clean, et ou qui ne voulaient plus utiliser de produits plastiques au quotidien. Et donc, qui dit un challenge et derrière besoin de secouer un peu le cocotier, ça m'a intéressé et ça m'a donné pas mal d'énergie pour me lancer.
Quand on a préparé l'émission, il y a une formule un peu choc que tu as formulée qui était la fast beauty et qui finalement peut aussi venir poser un peu notre problématique du soir, à savoir quel modèle alternatif on peut proposer à la fast beauty. Et ce que je te propose, Marin, et aussi toi, Elissa, c'est de rentrer dans la partie nous, donc la partie projet éclos. Et donc pour donner quelque chose d'un petit peu... un peu construit pour celles et ceux qui nous écoutent. En fait, on va avoir trois blocs de questions. Un bloc où on va vraiment questionner le rapport au produit. Ensuite, on va avoir un bloc qui va questionner le rapport au packaging. Et puis, on aura un autre bloc qui va être sur tout l'écosystème et la chaîne de valeur des autres acteurs et actrices avec qui vous travaillez. Comme ça, ça permet d'avoir un regard qui se veut être un peu construit pour pouvoir suivre la présentation que tu vas nous faire. Donc, Éclos, entreprise Bicorp, tu auras l'occasion de nous présenter ce que c'est qu'une Bicorp un peu plus tard. On va questionner la question des produits. Nous, on les a sous les yeux. Avant de poser des questions sur les produits, peut-être que tu peux nous les présenter.
Ouais, tout à fait. Donc Éclos, c'est quoi ? C'est une marque de beauté dite régénérative. Donc concrètement, on fait des produits de maquillage. On est né du maquillage. On a été créé il y a 3 ans. On est né du maquillage. On fait des rouges à lèvres, des mascaras, des ombres à paupières, du blush. Vraiment, la majorité des produits que l'on fait, c'est les produits du quotidien. Mais depuis peu, on fait aussi des produits de soins. Donc, on fait des sérums, mais aussi des soins concentrés bonne mine quand on n'habite pas à Marseille. Et vraiment, on a une panoplie assez complète de ce qu'on peut retrouver dans une salle de bain, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Voilà. Donc, on fait des produits principalement qui ont, quatre grands principes. Le premier, c'est que c'est des produits très sensoriels. Donc tout s'utilise au doigt et c'est multi-usage. On l'utilise à la fois pour les lèvres, les joues et les yeux. C'est des produits qui ont tous des bénéfices pour la peau. On a un rouge à lèvres qui repulpe. On a un démaquillant solide qui re-cicatrise. On a des sérums qui réhydratent. Voilà. Donc on a toujours un bienfait pour la peau. Et là, ce que je viens de vous donner, en fait, c'est vraiment les drivers du marché. C'est-à-dire que les gens, d'abord, ils veulent acheter un produit qui est beau, avec des jolies couleurs, très sensoriel, mais aussi qui fait du bien, ou à la limite, qui ne fait pas de mal à la peau. Voilà. Et troisième point, c'est que ce sont des produits, des formules qui sont toutes 100% d'origine naturelle. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Quand vous achetez Éclos, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Qui, pour la plupart, sont des formules bio aussi. Tout est vegan, cruelty-free, etc. Et on a aussi, et ça c'est une vraie innovation au niveau mondial, des packaging qui sont tous 100% d'origine naturelle et compostables et biodégradables. Donc ça c'est une vraie innovation sur le marché, c'est un marché qui utilise énormément de plastique, qui recycle très peu parce que c'est des plastiques compliqués parfois. Il peut y avoir une différence entre les éléments d'étanchéité et le packaging extérieur qui sont des plastiques différents, donc ça passe pas forcément dans les centres de tri. Et il n'y a pas assez en plus de centres de tri en France et de recyclage de plastique pour pouvoir tout traiter par rapport au niveau de consommation. Et donc là, on a des produits qui sont sans compromis à la fois sur la formule et sur le packaging. Et tous les packagings sont 100% d'origine naturelle avec des technologies assez innovantes.
Et donc ce qu'on voit là, on a plein de petits pots différents devant les yeux. C'est comme ça que le produit vient ? Il n'est pas dans une boîte ?
Si, alors il est dans une boîte. Alors, ça, c'est pour des raisons, à dire, de merchandising pour être visible. Et deux, c'est pour des raisons, à dire, légales, puisqu'on a obligation d'apposer les ingrédients et les normes légales. Et donc, on n'a pas assez de surface d'expression sur un petit pot. Donc, on les met sur un packaging extérieur, sachant que le packaging, il est en carton recyclé, recyclable. Pareil, avec une encre naturelle. Et c'est issu de forêts gérées raisonnablement.
Je me posais la question parce que personnellement, avant d'acheter un produit cosmétique, je le scanne avec INSEE par exemple, ou une de ces applications qui permet de confirmer un petit peu ce qu'il y a dans la composition du produit. Et j'imagine que c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant, bien sûr. Et que...
Oui, on le met en avant, c'est-à-dire que quand la plupart des produits ont une note excellente, par exemple sur Yuka, et on a de 15 à 20 sur 20 sur un Key Beauty. Et en revanche, parfois, selon la façon de noter tels ou tels ingrédients, on peut avoir une note qui est plus ou moins proche de l'excellent, mais on fait très attention puisque c'est une des valeurs fortes et c'est dans notre ADN que de proposer des produits clean pour la peau.
Justement, sur la partie produit, je voulais qu'on puisse là aussi la découper, une partie sur les apports pour les humains et une autre l'apport pour l'environnement. Le rapport sur l'humain, tu disais que c'était recicatrisant, que ça pouvait réhydrater aussi. C'est quoi la différence par rapport à un produit plus classique, lambda ?
Alors, sur le marché, il y a énormément de typologies de produits. Vous avez beaucoup de produits qui sont uniquement faits pour le plaisir. Donc ça, c'est le contrat de base du maquillage, de la cosmétique. J'ai une jolie couleur, une jolie teinte, avec une texture qui me va et un parfum qui me plaît. Et ça reste important puisque quand même la raison d'être de la beauté, c'est de redonner confiance et d'aider à avoir un peu plus confiance en soi. Ça contribue. C'est pas un vecteur principal, mais c'est un des vecteurs qui contribue à redonner un peu de la confiance. Donc on n'a pas trop le moral. C'est un peu comme chez le coiffeur. On n'a pas trop le moral. On sort avec une jolie coupe. On se sent un peu mieux dans sa peau. On sort. On est prêt à conquérir le monde. Ça, c'est un peu la raison d'être de la beauté au global. Hein. Si vous allez sur les sites de L'Oréal et autres, ils ont tous à peu près cette stratégie-là. Donc, c'est une raison d'être qui est honorable. Mais derrière, on a une autre raison d'être et un autre objectif. C'est de faire attention à ce qu'on met sur la peau. Et ça, il y a une étude qui est parue il y a 6-7 ans de Greenflex qui, en gros, hiérarchisait un peu les besoins en fait, des Françaises et des Français sur ces sujets-là. Le premier, c'est en gros ce que j'ingère. Donc moi, j'arrive de l'agroalimentaire. Donc c'était le premier critère d'achat d'un point de vue sécuritaire RSE. C'est ce que j'ingère, ce que je mets à l'intérieur de moi. Après, ce que je mets à l'intérieur, dans ce que mes proches ingèrent. Donc la plupart du temps, c'est les enfants. Et après, en troisième position, en fait, ce que je mets sur la peau. Forcément, quand je mets quelque chose sur la peau, bah, c'est très proche de l'organisme et ça peut pénétrer. Donc, c'était quand même un sujet essentiel. Et donc, on a beaucoup de produits qui nourrissent le premier point de la beauté, qui est se faire plaisir et contribuer à se faire à avoir plus confiance en soi. Et le deuxième niveau, bah, c'est faire attention à ce que je mets sur la peau et être sûr que ça réagisse de manière soit neutre, soit positive. Et donc, voilà, on a ces catégories-là de produits qui sont de plus en plus fréquentes sur le marché, mais la majorité quand même des produits de maquillage qui sont sur le marché font pas forcément de bien à la peau ou alors ne sont pas, on va dire, recommandables sur le long terme sur des peaux fragiles, par exemple.
Merci. Maintenant, il y a un gros point que tu voulais aussi qu'on aborde, c'est le rapport à la régénération. Et alors, sur le rapport à la régénération, ce que je vais te proposer, c'est... déjà donner une définition, parce que c'est un mot, le régénératif, qu'on entend énormément dans les méthodes de transition écologique, mais dès qu'on en sort, je ne sais pas si on sait vraiment ce que ça veut dire. Et puis comment est-ce qu'on arrive à distinguer aussi ce qui est vraiment régénératif ou ce qui est devenu du packaging ou du cosmétique écolo. Ensuite, donc, qu'est-ce que ça implique concrètement ? Si jamais on rentre un peu dans la pratique, donc nous donner quelques exemples. Et puis un suivi, comment on s'assure que bah, réellement c'est régénératif à court, moyen, long terme.
Oui, alors ça c'était en effet le quatrième point. Donc on est né de la régénération et on a une marque donc, dite de beauté régénérative. Et dans la régénération, on peut avoir une approche très holistique en fait de la régénération, c'est-à-dire on peut être une entreprise régénérative, ça peut être aussi une action régénérative sur la peau, et là on va aussi parler d'une action régénérative sur les sols et les fonds marins. Donc nous on est né de ça. Concrètement, la régénération c'est quoi ? C'est une pratique qui vise, on va dire, à restaurer la santé des sols et des fonds marins quand on parle d'agriculture régénératrice plus spécifiquement. Et avec deux points clés, c'est une capacité à faire de l'agriculture avec des pratiques qui ont une capacité à capter le carbone, donc garder le carbone, et deux, à augmenter la matière organique présente sur les sols. Quand vous additionnez les deux, vous avez une terre qui est plus à même de survivre ou de vivre. Et donc ça, c'est le principe de la régénération. Et donc pour ce faire, il y a des pratiques agricoles ou agro-agricoles qui permettent de faire ça. Je vais en donner quelques-unes, mais par exemple, entourer les champs de plantes sauvages, d'arbres, pour avoir un écosystème environnemental qui est existant et qui est vivant, c'est une première pratique. Recouvrir les terres de verdure et de plantes, c'est important pour ne pas que la Terre prenne en température et se réchauffe trop vite. Et donc, ça permet de réguler les températures des sols. Voilà, ne pas surabuser des engins agricoles sur les terres. Voilà, on a tout un tas de pratiques agricoles qui permettent de nourrir cette action régénérative.
Merci pour la partie un peu définition. Et alors concrètement, je sais que vous faites des choses en Bretagne. Il y a un rapport avec le chanvre.
Oui.
Je te laisse un peu nous présenter certaines des pratiques.
Donc dans tous nos produits, on a un actif dit régénératif pour les sols et les fonds marins. On a donc je vais prendre l'exemple du blush par exemple et des fonds de teint. On a on a du seigle à l'intérieur. Le seigle c'est super parce que ça ravive l'effet bonne mine naturelle de la peau. Donc c'est super pour l'efficacité. Mais derrière c'est une plante magique. On a on est en partenariat avec un agriculteur dans le Pays de Loire qui lui a des parcelles a récupéré des parcelles agricoles abîmées par l'agriculture intensive sur les précédents, enfin sur les dernières décennies. Et en fait, en plantant un pied de seigle, ça génère jusqu'à 600 km de mini-racines dans le sol. Les mini-racines, en fait, derrière, elles vont absorber les métaux lourds, les éléments un peu polluants du sol, et en fait, elles vont rejeter des nutriments. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exsudat racinaire. Je l'ai noté parce que c'est technique. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça, on va dire que ça va rejeter du sucre, des acides aminés, et tout ça, c'est riche en carbone. À ce moment-là, vous avez du coup des champignons qui se recréent, qui reprennent vie, qui se nourrissent de ça. Et qui dit champignons dit la vie qui revient, et donc là les vers de terre reviennent, les insectes reviennent, et à ce moment-là vous avez les oiseaux qui reviennent, vous avez tout un écosystème qui redevient vivant, et à ce moment-là on a de la végétation qui se recrée, et donc c'est une zone qui était complètement abîmée, qui était aride, et qui redevient verte, et donc c'est une zone qui capture plus de carbone que le champ abîmé d'à côté.
Voilà, c'est sûr que quand tu nous parles de racines à la forêt des possibles, tu n'as pas toqué à la mauvaise porte. En l'occurrence, nous, on aime aussi utiliser cette image de l'arbre et de la forêt, non pas parce que c'est que inspirant, mais aussi pour pouvoir diffuser ces pratiques régénératives et de perma-économie dans nos rapports sociaux. Et alors, la question après la définition, après l'exemple, c'est comment est-ce qu'on s'assure concrètement que ça marche ou pas ?
Alors déjà, il y a une tendance de fond qui montre que ça marche, celle de l'investissement des grands groupes dans l'agriculture régénératrice. On a l'Occitane qui vient d'en faire l'une de ses stratégies principales, donc qui vraiment est en agriculture régénératrice au sens global. On a Chanel qui vient de changer ses pratiques, notamment pour ses fleurs qui permettent de faire des soins et des parfums. On a exactement L'Oréal qui a créé un fonds de soutien à l'agriculture régénératrice, et c'est tout récent. Ou encore, de manière très concrète, on a un documentaire qui est arrivé sur Netflix il y a 3-4 ans qui s'appelle Kiss the Ground, qui est narré par Woody Harrelson et Gisele Bündchen, et qui explique comment on va sauver les États-Unis et la planète grâce à l'agriculture régénératrice. Donc à l'intérieur, on a déjà une tendance de fond qui est validée par les grands groupes, parce que derrière on a des études qui sont diligentées pour pouvoir vérifier si ça marchait. Et après, à notre niveau à nous, nous on est en partenariat avec Pour une agriculture du vivant, qui est l'une des fédérations, des organisations référentes en France pour l'agriculture régénératrice, et qui, elle, en fait, nous contrôle chaque année sur nos pratiques, sur les résultats des terres régénérées, donc avec des indices de régénération qui évoluent au quotidien et on doit absolument suivre avec des objectifs à atteindre. Et enfin, on est suivi et contrôlé chaque année, et toutes les allégations que nous utilisons sont vérifiées par cette organisation qui aujourd'hui fédère énormément d'acteurs de la régénération et qui est assez intransigeante et exigeante sur ces critères-là, et pour lesquels nous on fait attention, et donc ce sont eux qui vérifient tout ça et qui contrôlent.
Merci. On posera la question des incidences économiques un peu plus tard quand il s'agira vraiment de se lancer sur les transformations sociales. Ce que je te propose, parce que le temps file et que c'est passionnant ce que tu nous racontes, c'est d'aller maintenant sur la question du packaging, après avoir questionné le produit. Quand j'ai été regarder votre site internet, il a présenté un amalgame végétal de bois sans plastique, végétal et bois sans plastique et sans résidus chimiques. Et tu me disais que vous aviez une autre innovation qui était dans les cartons. Et aussi, tu nous disais que quand vous rejetiez, si c'était dans le cas, dans la nature, vos packaging, eh bien, ça se dégradait comme un noyau d'avocat. Je te laisse nous présenter tout ça.
Donc en effet, quand on a créé Eclo, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour le packaging. C'est quand même l'un des gros points noirs de cette industrie. Et à ce moment-là, alors mon associé Priscille, qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique, pardon, en fait a fait appel à une start-up finlandaise qui a créé en fait un matériau ultra innovant et qui permet de créer un effet plastique avec le même niveau de sécurisation de la formule, avec la même efficacité, le même type de texture, mais tout était 100% d'origine naturelle. Le principe, c'est de prendre des amalgames de bois et des végétaux, de les coller ensemble, de les chauffer, utiliser de la colle végétale pour tout relier. Derrière, on imprime avec de la colle végétale. Et donc, ça crée une matière, une texture qui est proche du plastique en apparence, mais qui est 100% d'origine naturelle. Et ça, en effet, ça a la particularité d'être 100% d'origine naturelle, d'être compostable et biodégradable. Alors celui-là, c'est une première génération de packaging naturel. Donc c'est compostable industriellement. Donc il faut aller dans un centre de compostage et donc c'est chauffé à 70 degrés pour être après composté. Mais en revanche, si vous jetez ça dans votre jardin, ça va disparaître à la même vitesse qu'une branche. Donc très lentement, pendant des mois et des mois, mais ça va disparaître et ça n'aura aucun impact négatif sur le sol, même si on n'incite pas les gens à jeter leur petit pot.
Ça ne crée donc pas de PFAS.
Exactement. Et la deuxième technologie que vous avez là sous les yeux, donc c'est les nouveaux pots pour le soin. Donc ça, c'est une nouvelle technologie qui nous arrive d'Angleterre. Et donc là, on a une autre startup qui a créé ça et c'est très récent. Qui du coup a réussi à créer une nouvelle technologie avec un nouveau matériau qui s'appelle le vivomère. Et le vivomère, c'est quoi? C'est l'élevage de micro-organismes et de microbes qu'on nourrit. Et derrière, au lieu de s'engraisser, on va dire que ces microbes rejettent de l'énergie. Cette énergie, elle est captée et en fait, elle est mise dans un moule et ça crée des granules. Et ces granules, en fait, sont mises dans un moule et le moule, après, prend la forme du packaging. La particularité, c'est comme c'est 100% micro-organismes, alors là, c'est compostable et biodégradable et c'est compostable à la maison. Donc ça, c'est l'exemple de la noyau d'avocat. Si vous jetez ce packaging dans votre compost à la maison, ça va disparaître à la même vitesse qu'un noyau d'avocat. Donc ça va prendre quelques mois, mais ça va disparaître.
Donc le... Vas-y.
Est-ce que ce pot est vivant?
Ce pot n'est pas vivant. C'est pas vivant, mais il est fait à partir de matière organique qui, à un moment donné, était vivante.
Merci pour la précision.
Je vais un peu dénoncer. Pas toi, évidemment, t'en fais pas. Dans ma vie d'avant, quand j'étais lobbyiste pour un grand groupe, je me souviens d'avoir participé à une réunion interlobby pour la défense absolue du plastique. Et je me souviens que cette réunion interlobby, ils étaient prêts à dépenser des dizaines de milliers d'euros, que j'aimerais bien avoir dans mon compte en banque aujourd'hui, pour faire une étude sur le fait que le marché n'était pas prêt à se débarrasser du plastique. Et dire que, en fait, remplacer du plastique par du bois, eh ben, ça fait chier le consommateur. Typiquement, la petite cuillère en bois où les gens vont dire « Ah, c'est pas bon, c'est un goût un peu râpeux, etc. » Je voulais avoir ton retour. Est-ce que tu trouves que le marché est effectivement pas prêt pour ce genre de produits?
Alors moi, je pense qu'on était dans les mêmes années dans les grands groupes. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai déjà eu ce type de réunion où on essayait de faire l'apologie du plastique. Pourquoi? Parce que ça... C'est efficace le plastique et ça peut, en termes de sécurité alimentaire par exemple, c'est vachement bien. En revanche, ça peut être vachement bien, mais en revanche, c'est pas les seules solutions qui existent. Donc, mais c'est économique. En revanche, moi je pense qu'aujourd'hui le marché est prêt, puisqu'aujourd'hui, quand même l'un des éléments clés pour se positionner et pour faire comprendre la démarche d'une entreprise comme la nôtre, c'est de combattre le plastique. En fait, aujourd'hui, c'est un peu devenu... diaboliser le plastique, ça fonctionne. Avant, diaboliser le plastique, ça ne marchait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fonctionne. Quand on dit qu'on ne fait pas de plastique, qu'on est contre le plastique, les gens comprennent et sont OK avec ça et généralement peuvent aussi nous acheter que pour ça. Ça, nous, on l'a vécu. Après... À titre personnel, moi, je pense que dans ces sujets-là, j'ai l'impression qu'il faut être un peu le despote éclairé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut imposer du non-plastique et on s'apercevra dans quelques années que c'était même une évidence. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de ne proposer que du non-plastique. On l'impose. Si les autres entreprises peuvent l'imposer, tant mieux. On sait que derrière, on sait que des grands groupes ont pris des participations dans les deux entreprises que je vous ai mentionnées qui font les packaging. Si derrière, elles imposent une nouvelle norme sans plastique, qui fait autant de marge et qui fait autant de business, je pense que du coup, ça permettra de vulgariser un peu tout ça.
Tu parlais tout à l'heure du bas coût du plastique. En effet, oui, c'est un des avantages principaux, j'imagine. Alors, comment est-ce que le choix que vous avez fait de passer par des petits labos qui vous fabriquent des innovations technologiques, enfin, comment ça impacte le prix de votre produit final et c'est quoi la part en fait du packaging là-dedans?
J'allais poser la même question, mais réponse courte parce qu'on va vraiment avoir une partie sur le modèle éco après.
Ok. Notre packaging, il est deux fois plus cher qu'un packaging de luxe parfois et trois fois plus cher qu'un packaging classique. Ça veut dire qu'on se fait moins de marge, tout simplement. En même temps, on est tout petit, donc on n'a pas de frais comme les grands groupes. Donc c'est, on essaye de prendre sur la marge, principalement, mais on a quand même des produits qui sont un peu plus chers que ce que vous pouvez trouver chez Sephora ou chez Marionneau. En revanche, on essaye de mettre plus de matière dans un seul et même produit. Dans nos rouges à lèvres, par exemple, vous avez l'équivalent de trois rouges à lèvres et un seul packaging plastique. Donc on essaye de réduire la quantité et de rogner un peu sur la marge pour proposer des prix quand même pas trop élevés, même si on sait que c'est quand même encore un peu élevé par rapport à la moyenne.
On parlera de la question de la bascule des modèles économiques vraiment dédiés tout à l'heure. Et je vois encore une fois le temps qui file, donc j'aimerais qu'on puisse aborder notre troisième un peu point sur la partie vraiment de Eclo. C'est le rapport à votre écosystème et à votre chaîne de valeur. On a parlé des rapports racinaires et des rapports écosystémiques sur le plan vraiment, on va dire, de la biodiversité. Mais j'aimerais aussi savoir comment ça fonctionne au niveau social et économique. Avec qui est-ce que vous travaillez ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec un laboratoire partenaire qui a des parts dans Eclo, qui est en Bretagne. Donc on a un ancrage breton, mon associé est breton.
C'est très bien ça.
On a le siège qui est en Bretagne. Moi, je suis à Marseille, mais l'ancrage, il est breton. Notre laboratoire est là-bas, donc tout est fait en France. On essaye, dans la plupart du temps, de sourcer nos ingrédients aussi en France. Le chanvre qui est dans nos ombres à paupières est de Bretagne. L'algue brune, c'est un jardin dans la Rance qui est aussi en Bretagne. Tout ça, c'est livré à un laboratoire qui est à Dinard, donc vraiment juste à côté. Le seigle est en Pays de Loire. Et quand on n'a pas l'ingrédient, on va vraiment dans les pays voisins. Voilà, donc on va pas plus loin que l'Europe. Et donc on a un écosystème assez local qui fonctionne plutôt bien. On a un bureau avec des équipes qui sont aussi à côté des laboratoires, ce qui permet vraiment d'avoir une connexion forte. Et derrière, après, on a ce qu'on appelle des engagements au travers du label B Corp, qui vise à lister les pratiques éco-responsables et hyper exigeantes sur le marché. Donc on s'engage par exemple à bien rémunérer les agriculteurs avec qui on travaille au prix du marché, voire plus. On s'engage à tester tous nos produits avec des vrais tests, et les tests sont faits en local. Par exemple, on peut tester sur des coraux, et les coraux les plus fragiles et pas les coraux les plus résistants. C'est tout bête, mais ça permet vraiment de vérifier si nos produits ont de l'impact. Donc on fait attention, et ces tests sont faits en France. On priorise aussi la France pour le recrutement, et derrière on a aussi des actions, on va dire, de l'eau, on va dire, d'engagement sociétal auprès d'associations. Par exemple, on reverse une partie de nos bénéfices à Respect Océan, qui s'engage pour la préservation des océans. On met en avant aussi les agriculteurs qui travaillent avec nous, ou alors on met en avant aussi toutes les pratiques agricoles et cosmétiques qui sont bonnes, en faisant des partenariats uniquement avec des marques qui ont un impact positif sur la société.
Merci beaucoup, Marin. On va prendre un petit moment de respiration musicale. On a fini la partie du mois au nous, de comment tu as fini par t'engager chez Eclo. Et ce que je te propose, c'est de nous présenter ce que tu as décidé de nous faire écouter.
J'ai sélectionné Sunrise de Norah Jones, puisque c'est quand même un lien avec... déjà, ça nous fait du bien, c'est un peu la chanson de l'équipe. Elle nous permet de prendre un peu de temps et une respiration. Et en plus, ça parle de renouveau avec la régénération, c'était parfait.
Eh bien, merci beaucoup et à tout de suite.
Couldn't something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who?
Normal pour aller sur la partie du nous au tout. Partie du nous au tout où finalement on va questionner la question de l'incidence des clos sur la transformation de la société. Et pour ça, nous avons quelques grands thèmes là aussi. D'abord un thème économique, c'est l'entreprise Bicorp et on va questionner la question de la rentabilité qui est un peu le nerf de la guerre. Ensuite, on va avoir une question presque civilisationnelle sur le rapport entre soins et écologie. Et finalement, qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on vit que de vouloir ou pas prendre soin de soi et de sa beauté? Et enfin, on aura nos questions Jungle Speed pour la fin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Eclo, entreprise Bicorp, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une Bicorp?
Une entreprise Bicorp, c'est une entreprise qui a un label et ce label, en fait, il vise à mettre en place des standards élevés en matière de performance sociale, environnementale, de responsabilité et de transparence. Donc, c'est vraiment un label international et qui, en fait, est axé sur 5 piliers. Un, c'est les clients, donc c'est nos rapports aux clients, c'est l'environnement, c'est les collaborateurs, c'est l'économie locale. Et après, il y en a d'autres, mais ça, c'est les, on va dire, les 4-5 principaux. Et donc, nous, on est Bicorp depuis peu, depuis 2-3 mois.
Ok, tout récent. Alors, j'aimerais te poser des questions sur la question vraiment de la rentabilité économique. Parce que quand on t'écoute, moi, je vois une forte exigence sur le rapport aux produits, sur le rapport au packaging, sur le rapport à la, au fait de vouloir travailler sur du local, avec ce que ça peut impliquer aussi de, d'une main-d'œuvre qui peut être considérée par certaines grandes entreprises internationales comme étant chère. Je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas quand je dis ça. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous y retrouver?
Tout est cher. Tout nous revient cher et aujourd'hui, on est vraiment dans une recherche d'équilibre entre sans compromis et rentabilité. Aujourd'hui, on est une entreprise, on a 3 ans, on fait le maximum au quotidien pour être rentable, mais on est beaucoup moins rentable que la majorité des marques sur le marché. Donc comment on fait? Déjà, on essaye de tout optimiser. On a très peu de frais de structure. On est assez lean dans la façon de créer l'entreprise, de faire du business, etc. Et après, on essaye de faire prendre conscience pour que le volume crée assez, si je rentre dans le détail un peu business, mais assez de revenus pour pouvoir payer nos salariés, nos équipes, bien rémunérer nos partenaires et rester en vie tout simplement. Parce que la clé quand même pour une entreprise, et ça c'est mon point, une entreprise comme la nôtre, pour moi c'est comme une association, une ONG, c'est que pour continuer à proposer une alternative qui soit durable et bonne pour la planète, bonne pour les gens, en fait il faut qu'on reste en vie. Et donc c'est pas facile, tout coûte cher, tout coûte plus cher, on essaye de pas le mettre dans le prix de vente. En revanche, on essaye d'expliquer la démarche, le projet, pour que l'achat en fait il soit qu'il aille au-delà du produit, mais qu'il soit aussi qu'il rémunère, on va dire, le projet au sens large.
Quand on préparait l'émission, tu me parlais du fait de vouloir être un poil à gratter pour l'industrie. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'être un despote éclairé. Alors, ce ne serait pas ta position à toi, mais peut-être celle d'un futur ou d'une future présidente de la République qui pourrait imposer de manière un peu plus ferme certaines choses. Est-ce que tu y crois, toi, à la bascule de l'industrie ?
J'y crois et je suis obligé d'y croire. Donc j'ai pas le choix, on est obligé d'y croire, ça c'est une première chose. Mais j'y crois, pourquoi ? Parce que on voit qu'il y a même une vraie bascule ces derniers temps. Il y a plus, la bascule est plus forte du côté des industriels que des consommateurs, que du côté des clients. Ça c'est une réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui les gens ont d'autres problématiques qui peuvent aller au-delà du maquillage, du soin et de la beauté. Et c'est des problématiques qui sont beaucoup plus proches de leur quotidien et beaucoup plus, je pense, impliquantes.
En revanche, c'est le triangle d'une action à fond, là.
Je crois beaucoup. Comment ?
C'est le triangle d'une action à fond, là. C'est de se dire à quel endroit se trouve la responsabilité, quels sont les enjeux, les priorités pour les uns les autres.
Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gros industriels qui ont commencé à prendre le point, qui, par exemple, commencent à investir dans ce type de packaging. La marque Hulé du groupe Shiseido a utilisé cette technologie pour une partie de ses produits. On a la gamme numéro 1 de Chanel qui a une base avec cette technologie, donc c'est déjà plutôt bien parce que techniquement c'est quand même difficile d'avoir une formule qui est compatible avec ça. On a des marques comme Cut by Fred par exemple qui à un moment donné avait cette technologie, donc on a des grandes marques et des marques qui commencent à bien fonctionner, qui commencent à switcher vers ce type de technologie, qui prennent le point. Et on a aussi des grands groupes comme, je l'ai cité tout à l'heure, L'Oréal, L'Occitane, qui elles ont mis au cœur de leur stratégie l'agriculture régénératrice. Ça arrive, ça prend du temps. On sait que derrière une crise environnementale, il y a une crise sociale qui est directement liée. Donc ça, quand on a un grand industriel, c'est plus long. Mais moi, j'ai l'impression que l'industrie a pris le sujet quoi, à bras le corps.
Toi, tu le souhaites ou pas ? Parce qu'en tant que citoyen, j'imagine que oui, mais finalement, en tant aussi qu'entrepreneur, aujourd'hui, c'est ton marché. Comment est-ce que tu te positionnes ?
Non, nous, on est. Alors ça, on est assez clair sur ça. Plus l'industrie bascule vers ce type de technologie, plus on est content. Okay. C'est-à-dire que nous, c'est notre objectif, c'est que ça devienne le nouveau standard pour les prochaines décennies.
Et pourtant, quand on préparait l'émission, tu me disais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, qu'on allait voir déferler d'ici 3 ans. C'est l'équivalent de Shein, c'est comme ça que ça se prononce ?
Shein, oui.
Shein, avec une fast beauty massive qui va déferler sur le marché français. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce qui nous arrive ?
Oui, on a des premiers papiers qui ont été écrits dans le New York Times, là récemment dans le Guardian aussi, dans Fast Company, qui sont un peu des médias que nous on considère un peu prospectifs, qui nous parlent un peu des tendances qui arrivent. Et c'est vrai qu'il y a 4 articles qui sont sortis entre 2020 et aujourd'hui sur est-ce que la fast beauty, c'est pas la nouvelle fast fashion ? Et nous, on voit quand même des signaux faibles qui commencent à arriver sur le marché. On a en effet un gros acteur, un équivalent de Chine, mais dans la beauté, qui commence à se préparer, qui arrive. On a même rencontré des personnes qui nous ont donné un peu des noms. On sait que ça recrute. Donc on sait que c'est un sujet qui va arriver. On a des journalistes aussi, alors ça peut être du Vogue ou sur Influencia et l'ADN qui ont commencé à en parler de cette arrivée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui va commencer à se faire, et surtout ça va commencer à mettre le projecteur sur la fast beauty qui est une vraie réalité aujourd'hui dans la façon de consommer la cosmétique, mais qui n'est pas encore sur le devant de la scène, pas assez.
Et du coup tu penses qu'il va y avoir une espèce de polarisation avec vraiment une espèce de rapport à la beauté à deux vitesses, avec une partie de l'industrie qui va sur du régénératif, à la fois sur le produit, le packaging, et qui essaye vraiment d'être dans la qualité, et une partie peut-être encore plus sale, encore plus polluante, encore plus invasive sur tous les marchés.
J'ai l'impression qu'en tout cas, les grands acteurs de la cosmétique qui sont principalement français, il y en a en Italie, il y en a aussi en Asie, ont pris le point. Il y a sûrement un ciseau qui va s'opérer entre ce que je faisais de moins bien, j'essayais de mieux faire, et après l'arrivée, la déferlante qui risque d'arriver et qui là essaye de faire du business avant tout. Je pense qu'on a de la chance d'avoir des industries, des industriels et des grandes sociétés très fortes qui sont capables de combattre ça et de diaboliser un peu tout ça. Ça, c'est un point de vue très personnel. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est assez bien armé en Europe pour se défendre contre ce type de pratiques. Et je pense qu'il y a aussi une grande différence, c'est que là, on touche à la peau et on touche à notre santé. Et la santé, c'est quand même devenu l'un des critères principaux quand même d'épanouissement au global. Et j'ai l'impression que ça va être plus difficile de mettre de la merde sur la peau pour les prochaines années, quoi.
Mais ça, c'est une prise de conscience qui est nécessaire et qui implique aussi un éveil culturel sur cette question-là. Et donc, ça permet aussi de questionner le rapport à la beauté, l'écologie et puis la société. Je vais prendre deux positions qui peuvent paraître opposées. Et j'aimerais que tu puisses nous donner un peu ton regard. Quand on rentre vraiment dans une posture d'écologie intégrale, on se débarrasse un peu du superflu et on essaie de retourner vers l'essentiel. Et donc, on va aller vers davantage de soins, vers un équilibre plus important entre ce qui compte vraiment pour soi. Et à ce titre-là, finalement, la beauté fait pleinement partie d'une des réponses à la transition écologique, c'est de se dire on passe du plus pour aller vers le bon. Et donc, ça, c'est un premier plan. Pour des personnes qui n'ont pas trop compris le rapport à l'écologie, je fais partie d'un groupe d'affaires, je ne donnerai pas le nom, mais parfois, les écolos, c'est les zadistes, c'est les gens cracra qui sont dans les champs et qui sont tout sales. Et donc, je voulais avoir un peu ton regard qui peut paraître hyper contradictoire entre, d'un côté, une écologie qui va prôner le rapport à la beauté et à l'essentiel, et une autre qui peut être perçue comme étant le fait que on va redescendre dans la pyramide de Maslow et la beauté, c'est tout en haut de la pyramide parce que ce n'est pas essentiel pour vivre. Comment tu regardes tout ça ?
Moi, je vois l'écologie comme un moyen, on va dire, d'améliorer les choses à tous les niveaux. Je vais prendre un exemple très concret, mais quand je prends l'écologie positive, je me dis, grâce à l'innovation, grâce à la science, je me dis qu'on essaye de mieux faire les choses de manière positive, tout en gardant tout ce qui est déjà en place et qui existera quoi qu'il arrive. En fait, moi, je pars du postulat que, quoi qu'il arrive, les gens vont vouloir se maquiller. Quoi qu'il arrive, on va vouloir utiliser des produits de soins. Donc, ça va exister. En France, il y a une prise de conscience qui peut être un peu radicale ou pas. Mais en tout cas, si nous, on ne propose pas une alternative, si on n'a pas des actions environnementales, sociétales, positives, en fait, c'est ça qui est un peu triste. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire. Mais il existe derrière, il y a des gens qui attendent avec le fusil et qui, eux, n'auront pas de pitié. Et donc, et Chine, c'est le bon exemple. C'est-à-dire que si derrière, on ne propose pas des alternatives, comme le fait la marque Loom, par exemple, de vêtements, qui fait un travail admirable, ou Veja même, on peut les citer. En fait, si eux ne sont pas là, quoi qu'il arrive, en fait, derrière, il y a quand même des gros acteurs qui, eux, n'ont aucune pitié pour ce type de pratique et qui vont quand même exister et non, on n'aura pas d'alternative possible. Moi, je pense que dans tous les cas, c'est des industries qui se développent, qui existent, qui sont présentes. Et donc, comment, avec l'existant, on arrive à améliorer les choses, à faire en sorte que ce soit plus positif ou à minima proposer une alternative qui soit plus vertueuse et plus positive pour la société et pour l'environnement. Donc ça, c'est ça mon point de vue. Et après, je pense qu'en effet, il faut quand même des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ça a toujours existé. C'est indispensable pour que les politiciens, enfin les politiques et les organisations prennent conscience en fait des problèmes à venir et à gérer. Mais donc, on a besoin d'avoir une certaine forme de radicalité pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, parce que sinon, personne ne nous écoute, on a l'impression. En revanche, derrière, on a besoin aussi des entreprises, des citoyens, des gens, pour en fait mener à bout les projets, les faire vivre et les rendre pérennes pour que d'un simple, on va dire, lanceur d'alerte ou d'une alerte, on arrive à avoir quelque chose de pérenne et qui existe dans le temps sur des années et des années, quoi.
Merci pour cette réponse. Moi, il y a un truc là qui, c'est pas que ça me titille, mais qui me questionne quand j'entends le quoi qu'il arrive. C'est dans ma prise de conscience écolo, je pense qu'il y a un schéma dont je n'arrive jamais à ne plus avoir dans ma tête, c'est le rapport Meadows. avec toutes les courbes qui montent, et puis à un moment ça redescend. Et donc un peu comme une civilisation ou un empire qui monte, et puis à un moment qui s'effondre. Et donc ça m'a fait penser au fait que par exemple l'Empire romain, quand on cherche les fouilles, on va souvent retrouver des petites amphores avec des produits de beauté qui viennent de super loin. Je me souviens d'avoir vu dans le Tarn et Garonne, à, comment s'appelle cette ville là, j'ai oublié le nom de la ville, ça va me revenir, mais des amphores de produits de beauté qui venaient d'Irak et qui étaient arrivés par la mer d'Irak jusqu'à Marseille, et ensuite qui, via les voies romaines, étaient arrivés jusque dans le Lot-et-Garonne. Et puis ensuite, l'Empire romain s'est effondré, et puis pendant presque 1000 ans, je ne sais pas à quel point le rapport à la beauté était aussi sophistiqué qu'il ne l'était à ce moment-là, parce qu'il y avait vraiment une première mondialisation de la ressource, du rapport à la beauté, où on faisait venir des produits qui venaient du monde entier. Et donc, si je reviens sur mon rapport Midos, moi, je me projette toujours en disant, en 2050, ça se trouve, ce sera un peu effondré. Bah, ça sera quoi le rapport à la beauté à ce moment-là? Quelles seront les pratiques?
J'ai une toute petite anecdote pour compléter ce que tu dis et pour peut-être le teinter d'une période bien plus récente, pendant la Seconde Guerre mondiale, où les femmes prenaient du charbon pour se dessiner à l'arrière des jambes les lignes qui étaient d'ordinaire sur les collants, pour faire croire qu'elles avaient des collants. Je pense que n'importe, quelle que soit la situation, il y a, c'est vrai, toujours une sorte d'appétence, et ça dépend des personnes, peut-être pas en effet chez tout le monde, mais certaines personnes qui aiment mettre du rouge à lèvres vont probablement vouloir trouver une substance de leur couleur favorite pour se maquiller les lèvres, même en temps de guerre, quoi.
Ça n'appelle pas spécialement réponse. Hein.
Non, mais c'est un bon point. Je pense que les deux sont totalement liés. Pour moi, ça fait référence à un besoin quand même d'avoir, de se sentir bien dans sa peau. Pour moi, c'est ça en fait le chapeau un peu global du sujet de la beauté. C'est-à-dire que je vous le disais tout à l'heure, l'une des raisons d'être des grands groupes de cosmétiques, c'est de redonner confiance en la personne, d'avoir confiance en soi. Je me dis que aujourd'hui, on a un rapport aussi à la santé mentale qui a énormément évolué depuis le Covid notamment, et que tout ce qui existe et qui nous aide à se sentir mieux au quotidien, que ce soit bien dans sa peau grâce à des compléments alimentaires, grâce au sport, grâce à l'alimentation, ou alors grâce à une crème que l'on se met le soir qui nous fait du bien. Tout ce qui est lié à l'amélioration de la santé mentale, pour moi, rentre en jeu en fait dans l'intérêt de la beauté.
Merci Marin. Alors, on attend 30 secondes parce qu'on va commencer à filmer un truc. Marin, est-ce que t'es prêt?
Je suis prêt.
On va passer à la dernière partie, la partie Jungle Speed. Et donc, ça va être des questions un peu plus prospectives. La première question, c'est: si on se projette dans 20 ans, à quoi ressemble ton secteur qui s'est pleinement engagé dans la transition écologique?
J'espère que dans 20 ans, voire dans 50 ans, on aura disparu. Puisque les gens auront assez confiance en eux pour ne plus avoir besoin de maquillage et de cosmétiques, les gens mangeront bien, feront du sport, dormiront bien, et derrière on n'aura plus besoin de produits cosmétiques, on va dire, pour compléter peut-être un manque qui se fait à ce niveau-là. Donc dans 50 ans, peut-être qu'on disparaîtra, et ça sera une bonne chose pour tout le monde.
Écoute, c'est courageux comme réponse, et c'est pas quelque chose qu'on entend à chaque fois, surtout quand on se bat pour faire vivre quelque chose et puis finalement après de dire j'espère que ça n'existera plus. Mais en même temps, quand on est sur les enjeux de transition écologique, on a tous envie de dire j'espère que ça n'existera plus, parce que ce sera devenu la norme. Deuxième question: qu'est-ce qui aura changé dans le quotidien des gens et dans leur rapport aux soins et à la beauté, justement? Est-ce que c'est, plus besoin?
Je pense qu'on arrivera à trouver en fait un moment, une parenthèse, un moment de bien-être facile et rapide. Quotidien grâce à ces produits-là. Je pense que c'est la petite touche qui me permettra, on va dire, de sortir un peu la tête de l'eau et de me sentir bien très facilement, et de prendre soin aussi des autres. Je pense que c'est une beauté qui se partagera peut-être demain et pas uniquement pour soi, et ce serait, on va dire, une suite logique. Une fois qu'on a fait le tour de soi-même, après on essaie de le partager, donc pour moi ce serait le partage qui arriverait ensuite.
Merci. Autre question: quels sont les savoir-faire anciens ou métiers oubliés qui vont refaire surface?
Moi, je pense que tout ce qui est lié au bien-être, mais aussi à la culture ancestrale des champs, toutes les pratiques agricoles d'antan vont revenir un peu sur le devant de la scène. On parlait d'agriculture régénératrice. Aujourd'hui, concrètement, c'est uniquement des pratiques qui existaient il y a 30, 40 ans, voire 50 ans, et qui reviennent aujourd'hui dans la vie des agriculteurs. Et donc, on va revoir à nouveau des champs pleins de fleurs, pleins d'arbres. On va avoir des pratiques agricoles avec moins de tracteurs. Donc, on va retrouver des pratiques qui ont été un peu oubliées, mais qui reviennent aujourd'hui et qui sont en plus efficaces.
Merci. On a parlé de la question du triangle de l'inaction sur le fait que citoyens, entreprises et acteurs politiques se renvoyaient souvent la balle pour expliquer pourquoi on n'était pas à la hauteur. Puis en fait, tu l'as aussi démontré au cours de l'émission. Quelles sont dès aujourd'hui des actions concrètes, individuelles ou collectives qu'on peut mettre en place ?
Moi, je pense que déjà, il faut une petite action chaque jour par personne, c'est déjà très très bien. Mais en tout cas, regardez les étiquettes, c'est toujours bien. Regardez peut-être toujours questionner le projet qui est derrière une marque qui se lance. Rencontrer les acteurs, en fait, c'est aussi intéressant pour essayer de comprendre les démarches qui sont derrière. Et peut-être aussi juste faire passer le message à son voisin lors d'un dîner. Expliquer en fait pourquoi on s'est engagé avec cette marque, pourquoi est-ce qu'on utilise celle-là, qu'est-ce qui nous prend aux tripes et pourquoi c'est bon, soit pour l'environnement, la société. En tout cas, partager ça aux autres et essayer de comprendre. Juste avec une petite question, pour moi c'est déjà une bonne action et ça permet de faire prendre conscience et peut-être aussi tout bête, hein, mais intégrer ça dans les programmes scolaires au quotidien, ça peut être vachement intéressant et assez efficace parce que l'éducation ça reste quand même la base de tout.
Merci beaucoup Marin pour ces réponses et puis on arrive progressivement à la fin de l'émission alors que je vois Sidi qui est revenu en régie. On va conclure là-dessus et peut-être que juste pour conclure tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver.
Alors, nous, on peut nous retrouver sur eclobeauty.com, donc c'est notre plateforme e-commerce, ou alors dans un concept store de votre ville. On est un peu partout en France, donc concept store ou alors pharmacie parfois. Vous avez toutes les adresses sur notre site internet.
À Marseille, j'ai vu que vous étiez à Augjo, rue de Malmousque.
Tout à fait, Augjo à Aix et à Marseille, super boutique qui a des super produits, donc on vous attend là-bas aussi.
Merci beaucoup Marin, j'ai pas la date exacte du jour où va passer cette émission à l'antenne, mais je pense qu'on sera très proche du jour de Noël, le 24. Donc si vous nous écoutez le 24 au soir à 19h et que vous êtes en train de vous dire je sais pas quel cadeau acheter, voilà, c'est le bon moment. Et puis si vous voulez faire des échanges de cadeaux après parce que ça arrive, pour la seconde main des cadeaux, vous pourrez tomber sur Eclos. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci Marin, merci Elissa, merci Sidi en régie.
Merci.
Et on vous dit à très bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.